سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité donc de nous réunir après la salat al-isha pour parler de sa religion, de son dîn et pour parler d'une branche de la foi. C'est la, le iman bil yawm al-akhir, la foi concernant l'au-delà. Et parmi, salam wa barakatuh, et parmi les principes concernant la foi en l'au-delà, il y a le fait que le musulman croit en la fin du monde. Et pour croire en la fin du monde, il faut croire en ces signes qui vont précéder la fin du monde. Ce qu'on appelle Ashrat al-Sa'a. Et on avait vu que parmi les signes de Qiyama, il y a les petits signes de Qiyama et ensuite il y a les grands signes de Qiyama. Alors, on avait vu pendant quelques semaines, pendant quelques mois même, certains hadiths, certains textes prophétiques concernant la venue de Dajjal. Et on a vu que notre prophète alayhi salatu wassalam avait mis en garde sa communauté contre la venue de cette créature qui est avant tout un être humain. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que jamais Allah azza wa jal n'a créé un fitna, une source de trouble plus importante que Dajjal. Et on avait vu au tout début que pour quelle raison est-ce qu'Allah Azza wa Jal a créé une telle personne, hein, sachant que par la venue de Dajjal, hein, par sa prêche vers le batil, vers la fausseté, Dajjal va détourner beaucoup de gens du droit chemin. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui n'étaient déjà pas dans le droit chemin, mais ils vont suivre Dajjal aveuglément et ils vont aller avec lui en enfer, dans le Jahannam, sans le moindre doute. Mais malheureusement, il y aura également des mu'mines, il y aura également des musulmans qui auront la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, mais c'est une foi qui est tellement faible, une foi qui est tellement daïf que cette personne, en voyant les miracles accomplis par Dajjal, cette personne va perdre sa foi et va accepter la prêche de Dajjal et va accepter le message de Dajjal. Donc on avait vu également qu'avant la venue de Dajjal, il y aura certains signes, il y aura certains signes dans le monde qui ne tromperont pas. Et parmi ces signes, hein, un signe évident qui n'échappera à personne, c'est la venue de Imam Mehdi. Et c'est durant le règne, le khilafa du Imam Mehdi, que les musulmans vont apprendre la nouvelle de Dajjal après la conquête de Constantinople. Et on avait vu que Dajjal, Allah Azza wa Jal l'a créé avec certains signes. Il y a des signes physiques distinctifs de Dajjal. Quand un mu'min qui a la foi, hein, la foi, le iman de son cœur, cette personne va voir sur le front de Dajjal écrit le mot kafir. Et notre prophète alayhi salatu wasalam nous a mis en garde que je vous donne des indications concernant cet homme qu'aucun prophète n'avait donné. On a vu que le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit que tous les anbiya alayhi salatu wasalam avant lui avaient mis en garde sa communauté contre la venue de cet homme, de Dajjal. Pourquoi tous les anbiya? Parce que le fitna, les troubles de Dajjal sont exceptionnels. Dajjal pourra attirer vers lui quantité de personnes, même les gens qui sont persuadés, comme on l'a dit, d'avoir la foi, parce que Allah Azza wa Jal va accorder à Dajjal un pouvoir qu'il n'a accordé à aucun homme. Allah Ta'ala va accorder à Dajjal un pouvoir qu'il n'a accordé à aucun homme. Certes, les anbiya alayhi salatu wassalam accomplissaient des miracles, ce qu'on appelle les mu'jizas. Mais l'objectif de ces mu'jizas était de tirer les gens de l'obscurité pour les amener vers la droiture, vers la lumière, pour qu'ils comprennent la véracité de leur message. Mais une personne qui invite les gens vers le faux, qui invite les gens vers l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, et qui a autant de pouvoir, ça il n'y a jamais eu. Il y a certes eu à l'époque de Pharaon, à l'époque de Pharaon, hein, les grands sorciers. Il y avait les grands sorciers qui faisaient, hein, bouger les bâtons, qui faisaient des choses un peu extraordinaires pour que les gens acceptent que Pharaon c'est leur maître et jusqu'à dire c'est leur dieu. Mais quelqu'un qui peut faire des choses aussi exceptionnelles et de manière permanente, qui peut ressusciter les morts, qui peut ressusciter les animaux, les cadavres d'animaux, quelqu'un qui claque les doigts et la pluie tombe alors que l'humanité vient de connaître 3 années sans pluie, 3 années de sécheresse, une personne qui ordonne aux champs, hein, de faire sortir, hein, les fruits, les légumes et toutes les cultures, les céréales, alors que, comme on a dit, il y a 3 années de sécheresse, donc 3 années sans récolte, les gens sont en train de mourir de faim, alors Dajjal il va voir un fermier et dit que tu acceptes que c'est moi ton Dieu, ton créateur, ton Khaliq, et tu auras la bénédiction. Et effectivement, ça c'est le Qudra qu'Allah Azza wa Jal va accorder à Dajjal. La personne va accepter, na'oudhu billah, quelqu'un qui a la foi mais qui va accepter que c'est lui son Dieu, et immédiatement il va voir ses champs donner des fruits, des légumes comme il n'en a jamais vu. Il va dire à un fermier que accepte que c'est moi ton Dieu, et les cadavres d'animaux vont revenir à la vie. Cet homme qui est pauvre, comme on avait dit, qui n'a peut-être pas à manger pour lui-même et pour sa famille, il va voir des cadavres revenir à la vie. Une personne va va voir ses parents revenir à la vie. Dajjal va dire à une personne, si tu acceptes que c'est moi ton Dieu, j'ordonne à ton père de retrouver la vie, quelqu'un qui est décédé, etc. etc. Hein, tous les exemples qu'on avait déjà cités par le passé, il faut qu'on comprenne que jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis le premier homme jusqu'à la fin du monde, il n'y a eu une créature qui avait autant de pouvoir que cet homme dans le but de détourner les gens du droit chemin. Mais nous voyons également, on a vu également que le pouvoir qu'Allah Azzawajal a accordé à Dajjal est un pouvoir limité. Et le summum de ses talents de Dajjal, ses talents de magicien, de sorcier, de prestidigitateur comme vous voulez, hein, il va atteindre le paroxysme quand il sera près de Médina. On avait vu qu'il va sortir à tel endroit. Bon, j'ai plus les régions géographiques en tête. On avait vu avec une carte, hein, c'est à peu près vers l'Iran, vers l'Afghanistan, vers différents pays, vers la Turquie, si je ne me trompe pas, jusqu'à arriver vers quelle région? Via le Hijaz. Jusqu'à arriver via le Hijaz, c'est-à-dire hein, la péninsule arabe, le Moyen-Orient, la zone qui englobe Jeddah, Makkah, Madina, etc., etc. D'accord? Et le but de Dajjal, c'est aller vers les lieux saints. Il sait pertinemment qu'il ne pourra pas y aller. Dajjal sait pertinemment qu'il ne pourra pas entrer, il ne pourra pas approcher ni de Makkah ni de Madina. Mais il y va quand même parce que c'est sa mission. Allah l'a créé pour ça. Il va vers ces endroits également pour éprouver les gens de cette localité, de Médina. D'accord? Et donc, arrivé aux frontières de Médina, hein, il y aura un jeune homme. Et là, on avait expliqué, on avait rappelé la dernière fois que vous voyez, jusqu'à la fin des temps, hein, les missions les plus importantes, les tâches les plus héroïques seront accomplies par des jeunes. Et on avait vu que à l'époque du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu les premières conversions, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, à part Abu Bakr et à part Al-Hamza qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr qui avait un ou deux ans de décalage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ces personnes qui avaient accepté l'islam, le noyau dur de l'islam aux premières années, c'était tous des jeunes en 18 et 25 ans, 26 ans, 27 ans. Et à la fin des temps, cette personne qui va prouver à l'humanité que cet homme-là est un menteur, ce sera un jeune homme. De quelle façon? C'est un jeune homme qui aura la science religieuse. Et au fur et à mesure qu'il voit les signes s'accomplir, il va se rendre compte que c'est lui qui est l'élu. C'est lui qui a été choisi par Allah, mentionné dans les hadiths, qu'à la fin des temps, Dajjal s'approchera de Médina et un jeune homme ira défier Dajjal. Il ira défier Dajjal devant toutes les troupes, toutes les armées. Et là c'est un petit récapitulatif, mais on n'a pas dit qui sont les composants de l'armée Dajjal, les gens de quel pays, quelle région. Bref, ce jeune homme ira vers Dajjal et il va dire que j'atteste que tu es un Dajjal. Et Dajjal va dire que je vais te tuer et te redonner la vie pour que tu sois persuadé, tu comprennes, et que tous ceux qui sont autour comprennent que c'est vraiment moi, Dieu. Et Dajjal va trancher cette personne en deux. Dajjal va trancher littéralement la personne en deux, et pour montrer aux gens que la personne est réellement morte, Dajjal va marcher entre les deux parties du corps de cette personne. Et là, tout le monde va constater qu'il a tué ce jeune homme. Et ensuite, Dajjal, par la qudrat qu'Allah Ta'ala lui a accordée, va redonner vie à ce jeune homme. Et là, lorsque ce jeune homme va se mettre debout, son âme était sortie, son âme revient. Les gens sont épatés, ils voient, il y en a qui vont tomber encore une fois dans le pied de Dajjal, mais Dajjal va dire aux gens, maintenant, voyez-vous, et à ce jeune homme, maintenant, est-ce que tu attestes que c'est moi ton Dieu? Et là, cette personne dit, Subhanallah, en ce jour, j'ai encore plus de conviction que c'est toi Dajjal. En ce jour, j'ai encore plus de conviction que c'est toi Dajjal, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait annoncé cet événement il y a 1500, je dis 1500 années, mais le prophète nous avait annoncé cet événement. On ne sait pas si Dajjal va venir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait annoncé cet événement, qu'un homme viendra, défiera Dajjal, il le tuera, il le redonnera la vie, et là, je vois que c'est exactement ça que le prophète avait annoncé, et que j'atteste que c'est toi à Dajjal. Et là, bi'iznillah, par le biais du sacrifice de ce jeune homme, il va délivrer l'humanité des maléfices de Dajjal. C'est-à-dire, à partir de ce moment, Allah décrétait que les pouvoirs qui lui étaient confiés soient retirés. Allah lui accordait des pouvoirs pour un certain temps, pour la première phase de sa mission, pour réunir l'armée, commencer un peu hein, de passer de pays en pays, sa prêche, jusqu'à arriver aux terres saintes. Après les terres saintes, c'est-à-dire Makkah et Madina, il n'a plus le même pouvoir. Et là, les choses vont se compliquer pour lui. Parce que là, il y aura Mehdi qui va le combattre, et ensuite, il y aura celui qui va le tuer, qui dans quelques temps va apparaître, Al-Masih, Isa ibn Maryam, Isa, fils de Maryam, alayhi salatu wassalam.
Et donc, après ce miracle, hein, de Dajjal, on appelle ça plutôt un istikhraj, hein, en termes techniques, et Dajjal va essayer de le tuer de nouveau. Mais là, Allah Ta'ala va lui retirer le pouvoir et il ne pourra plus jamais donner la vie ni donner la mort. Et en commentaire, les muhaddithin, les ulama disent également, voyez, quelqu'un qui a la foi de son cœur, qui a la foi, yaqin en Allah, tawakkul en Allah Azza wa Jal, et qui a la science religieuse, même si en face de lui, il y a quelqu'un qui fait des miracles, des choses exceptionnelles, son iman va le protéger contre cela. Vous voyez l'exemple de ce jeune homme? Il n'y a pas besoin de voir quelque chose de plus grandiose et il est mort. C'est pas qu'il a vu lui-même, son âme est sortie. Les hadiths ne disent pas ce qu'il a souffert en mourant ou non. Les hadiths ne le précisent pas, d'accord. Il est mort et il retrouve la vie. Donc c'est lui-même c'est le plus grand miracle pour lui-même et pour les gens. Mais sa foi, ses bonnes actions certainement qui viennent avec, et la science religieuse qu'il a, la connaissance des textes prophétiques, hein, c'est comme un rempart contre les plus grands fitnas. Cela veut dire, par analogie, on peut dire que quelqu'un qui a la foi, qui fait de bonnes actions et qui a la science religieuse, Inch'Allah, qui connaît les limites entre le halal et le haram, cette personne sera protégée contre n'importe quel waswasa de shaitan, contre n'importe quel fitna. Là, c'est ce jeune homme-là a été protégé contre le plus grand fitna qui a été créé dans toute l'humanité, le fitna de Dajjal. Maintenant, le fitna de Nisa, tous les fitnas qu'il y a autour de nous, les femmes, l'alcool, toutes les choses qui sont haram et toutes les choses qui causent la perte de beaucoup de personnes, quelqu'un qui a la foi, qui accomplit les bonnes actions, qui connaît les limites, qui a un peu de ilm de science religieuse, Inch'Allah, cela sera une protection, un bouclier pour lui contre ses tentations, tout comme ce jeune homme a pu résister à l'appel de Dajjal par rapport au sifat qu'Allah Ta'ala lui avait accordé. Hada. Et donc on s'était arrêté à là la dernière fois, Ismatul Haramaini min ad-Dajjal, comment Allah Azza wa Jalla va protéger Makkah et Madina Munawwara contre la venue de Dajjal. Et on a vu qu'à chaque fois que Dajjal va essayer de s'approcher de ces villes saintes, il va trouver, hein, lui il voit, nous on ne voit pas, parce que lui c'est une créature qui vient du monde de l'invisible, Dajjal. C'est une créature qui nous ressemble, être humain, mais qu'Allah a accordé des pouvoirs. Et preuve qu'il n'est pas vrai, il est humain d'apparence, mais pas réellement humain, il n'est pas réellement constitué comme nous, on ne va pas dire génétiquement, hein, c'est pas Hulk, c'est pas des trucs comme ça. Ça c'est des trucs de malade, ça. Mais Dajjal, il est là depuis, subhanallah, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà vivant. Le hadith al-Jassas qu'on a vu, qui était sur l'île, ça veut dire que certes, il a l'apparence d'un être humain, mais il n'est pas fait comme nous, pas la même constitution, parce que nos cellules ne sont pas éternelles. La cellule humaine, il vit quelques jours, je sais pas, quelques mois, je sais pas, docteur, et puis ça meurt. Et l'être humain lui-même, les cellules, à un moment donné, ne se régénèrent pas, et puis on faiblit, on vieillit, et puis on meurt. Mais cet homme-là, il est créé depuis avant le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, ça fait plus de 1500 années, et donc, jusqu'à quand, subhanallah, Allah seul le sait, plus la période de sa mission. Et donc, on avait dit que, arrivé près de Madina, lui, il voit des choses que les humains ne voient pas. Dès maintenant, en 2012, dès maintenant, Allah Azza wa Jal a déjà créé des anges qui restent autour des villes saintes de Makkah et de Madina. Ils sont là pour protéger les villes saintes. Dajjal peut venir n'importe quel heure, matin, midi, soir, n'importe quel moment, ces anges sont là pour protéger Mecca et Madina contre les villes saintes. Alors quelqu'un qui aime bien poser des questions, hein, il peut se dire, oui, mais pourquoi est-ce que les anges ne protègent pas les pèlerins contre les voleurs? Pourquoi est-ce que les anges ne protègent pas les gens contre les foules, Arafat, les gens qui se font écraser, ou contre les pickpockets, les maladies? C'est-à-dire, tous les autres problèmes qu'on... Non, ces anges-là, ils sont présents aux frontières des villes saintes pour un but précis. Leur mission, c'est quoi? Dégager Dajjal. Leur mission, c'est s'ils voient quelqu'un wanted comme Dajjal, ils sont là pour se montrer l'épée qu'Allah leur a accordée pour les chasser. Et Dajjal dira qu'à chaque fois que je me présenterai vers une de ces deux villes, hein, je vais voir des anges avec leur épée, hein, prêts à me chasser de ces villes. Et le programme de la dernière fois, ça remonte quand même à un mois et demi à peu près, Dajjal, on avait expliqué, je ne sais pas si on avait expliqué ça, Dajjal ira jusqu'à la montagne de Uhud. On avait dit ça? Donc j'ai loupé quelque chose. J'ai préparé le quad d'après et j'ai pas le même manuel, hein, avec la carte et tout. Khair, inshallah, j'étais persuadé qu'on avait fait ça. Ce que j'ai pas vu dans mes notes, dans ce qui avait été téléchargé aussi. Il va aller jusqu'à la montagne de Uhud. Je sais pas si on retrouve les notes, mais ça va être dur. Il va aller jusqu'à la montagne de Uhud et voilà. Bon, mais j'aurais voulu préparer ça, c'est tout en arabe. hein, et j'avais un petit projecteur aussi, ça aurait été mieux. Il ira jusqu'à la montagne de Uhud, bon, c'est pas trop visible, et de cette montagne-là, il va regarder ce que lui il appelle comme le château de Muhammad. Il va dire aux gens qui sont avec lui, regardez, ça c'est le Qasr Ahmed, c'est le château de Ahmed, le château du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama rahimahumullah disent, hein, il va dire que c'est le château blanc de Muhammad. Et les ulama disent que ça également c'est une preuve de véracité des paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée, la Masjid Nabawi était toute petite. C'est une petite mosquée. D'accord, c'était fait avec hein, comment on appelle ça, de la terre cuite, hein, de la boue, etc. séchée, avec hein, des poteaux, avec des palmiers et des feuilles de dattier qui couvraient. C'était petit, c'était pas visible de loin, encore moins de la montagne de Uhud. De Uhud jusqu'à le Masjid Nabawi, il y a pas mal de kilomètres. Il dit que donc de la montagne de Uhud, il était impossible de voir la Masjid Nabawi. Donc comment le prophète peut-il s'avancer et dire que Dajjal viendra à cet endroit, sur cette montagne, et de là il va regarder la Masjid Nabawi? Impossible. Ça veut bien dire que c'est Allah Azza wa Jalla qui a mis dans son cœur que à cette époque-là, la mosquée sera tellement grande qu'elle sera visible de la montagne de Uhud. D'ailleurs, quand on va, hein, pour ceux qui sont déjà partis, alhamdulillah, ceux qui n'y sont pas allés, qu'Allah les amène, ceux qu'on va à Madina Munawara, qu'on atterrit donc en avion, depuis l'avion on voit Masjid Nabawi. Si c'est le soir, et qu'il n'y a pas, en général il n'y a pas trop de pollution, hein, si c'est le soir, la Masjid est éclairée, depuis l'avion, avant d'atterrir, on voit de loin la Masjid Nabawi, subhanallah. Et donc Dajjal, de la montagne de Uhud, il va regarder. Et l'adjectif, hein, la couleur, il va dire le château blanc. Et le terme abyad, ce terme qui est utilisé en arabe, ça veut dire c'est toutes les couleurs qui sont claires. C'est pas uniquement le blanc, comme le mur qui est blanc. Ce sont les couleurs qui sont claires. Et quelle est la couleur de la Masjid Nabawi? Gris, la couleur prédominante. C'est comme un genre de coquille d'œuf, un peu saumon, voilà. Saumon, coquille d'œuf, un peu, pas rose, mais à peu près, voilà, saumon, c'est le terme exact. C'est-à-dire une couleur qui est claire. Et donc Dajjal va voir cet endroit et va dire que ça c'est le château de Ahmad, c'est-à-dire la Masjid Nabawi. Et là les anges vont le chasser, et quand il va quitter la péninsule arabe, là il va parcourir le monde entier. C'est là que vraiment sa mission, lorsqu'il dit qu'il ne va pas abandonner ni un pays, ni un continent, ni une ville, ni un village, sans y entrer et mener sa da'wah, sa prêche vers le faux. Donc là, ça va commencer ces 40 jours qu'on avait expliqué, avec le premier jour qui est équivalent à une année, deuxième jour un mois, troisième jour une semaine, et les autres jours seront comme n'importe quel jour de l'année. Donc, Dajjal maintenant a quitté Makkah, a quitté Madina, et il s'en va vers n'importe quel endroit. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Moi, musulman, j'habite à l'île de la Réunion, je suis certes à, je ne sais pas combien de kilomètres de la péninsule arabe, à 6000 kilomètres, on va dire, de la péninsule arabe, et Dajjal a promis, il a promis que la ada'u qaryatan, je ne vais pas délaisser même un village. Alors j'espère, je ne sais pas s'il connaît les îles, comme lui-même il vient d'une île. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il aime les îles. Donc il va tout d'abord aller vers les îles, je ne sais pas. D'accord ? Donc Dajjal va venir dans tous les... On doit avoir conviction. Iman yaqin là-dessus. Parce que sa mission, subhanallah, il y a pas mal de jours. Hein, on a vu, c'est plus d'un an, un an et demi à peu près. Et Allah va lui accorder un pouvoir pour se déplacer qui le permettra d'aller tous les endroits possibles. Alors, moi musulman lambda, j'habite à l'île de la Réunion, on est en 2075, voilà, on est en 3020, je ne sais pas à quelle date je m'avance, et réellement, je ne dis pas que j'entends que Dajjal arrive, parce qu'on avait vu à travers pas mal de signes de Qiyama que c'est comme si qu'on pouvait déduire qu'à cette époque-là, les moyens techniques, la technologie dont nous disposons hein, en 2012, au 20e siècle, ne sera peut-être, je parle au conditionnel, ne sera apparemment plus disponible à ces époques. Parce que le prophète alayhi salatu wasalam décrit des cavaliers, décrit des affrontements avec, comment on appelle ça, avec des lances. Al-Isa alayhi salam va tuer Dajjal avec une lance. C'est pas un kalachnikov, c'est pas un fusil à pompe ou alors un autre chose. Non, on parle de lance, on parle de cavalier. On parle des meilleurs cavaliers de cette umma. Et le prophète alayhi salatu wasalam, hein, pour qu'on comprenne bien que ce ne sont pas des métaphores. C'est pas qu'on parle de cavaliers, qu'on parle de chevaux, c'est pas une métaphore qui veut dire un moyen de transport. Non, parce que le prophète précise même quelle sera la couleur de ces chevaux. Le prophète alayhi salatu wasalam décrit même la couleur des chevaux de ses meilleurs cavaliers à la fin des temps qui iront à la recherche de Dajjal pour prouver est-ce que vraiment c'est lui ou alors c'était une fausse rumeur. D'accord? Donc tout porte à croire. Ça n'engage que moi. Hein, c'est pas écrit dans les textes, c'est pas écrit dans les commentaires de hadith, mais tout porte à croire qu'à cette époque, on ne disposera pas des moyens techniques, de la technologie présente à ce moment. Autrement, ce serait extrêmement facile. Dajjal est apparu, on envoie messages sur les murs de Facebook, sur les groupes, on envoie par WhatsApp, on envoie par Twitter, on envoie par, je ne sais pas, tous les moyens, toutes les plateformes, tous les, hein, ce genre de choses, les réseaux qui existent, tout le monde sait. Si Dajjal est sorti en Afghanistan là-bas, ce soir, le 27 mai, je ne sais pas combien aujourd'hui, ben, en deux secondes, le monde entier le sait. Donc, tous les imams vont aller dans la masjid. Attention, mes chers frères et sœurs, dors pas du net. Attention, mes chers frères et sœurs, Dajjal est venu, on a eu le Twitter, le texto, hein, il faut être attentif. Allez prendre votre courant, lisez sur les kahaf et tout, mémorisez les 10 premiers versets, les 10... Non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Quand Dajjal va venir, il y aura des gens qui seront surpris. Les gens seront surpris par la venue de cet homme. Ils ne s'y attendront pas. Et le prophète a dit, si vous entendez qu'il est là, n'allez pas le voir. C'est-à-dire que quand il est proche, là, peut-être que les gens, ils savent. Et là, il ne faut pas aller le voir. Vous comprenez que donc, et d'ailleurs, le prophète a dit qu'à l'époque de Dajjal, Allah Ta'ala a fait en sorte que les a'immas, les ulama, les savants de cette époque, ne parleront plus de lui. C'est-à-dire que vraiment, quand Dajjal vient, c'est dans Rafla. Dans, on ne dit pas complètement dans Jahiliya, les gens ne seront pas ignorants, mais il y aura comme, c'est comme si les gens avaient un peu oublié ça. Je ne vais pas faire de parallèle, je ne le fais pas. Hein. C'est-à-dire comme les sahaba, ils n'avaient pas réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun illa rasoul, pardon, qad khalat min qablihi rasoul, afa immata aw qutila, in qalabtum, aw qutilan qalabtum ala aqabikum. C'est comme les sahaba, ils vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne réalisaient pas que le prophète un jour pouvait les quitter. C'est-à-dire qu'on peut connaître quelque chose, mais c'est comme si qu'à un moment donné, on oublie. On peut savoir, être conscient de quelque chose, mais l'oublier momentanément. D'accord? Les gens, ils savent c'est qui Dajjal. Je ne pense pas que, peut-être que ceux qui sont, certainement ceux qui sont autour d'Imam Mehdi, hein, ils seront réunis près de Beitul Maqdis, près de Jérusalem, vous avez vu ça. Eux, ce seront les meilleurs des hommes, les plus grands mu'minines, les meilleurs parmi les croyants, ceux qui ont plus de sang, plus de taqwa. Mais maintenant, la situation des musulmans ailleurs, Allahu A'lam. Mais le Prophète a bien dit que quand Dajjal vient, les a'immas ne parleront plus de lui sur les mimbars. C'est-à-dire les gens, ils seront surpris quand cet homme va venir. Donc comprenons qu'on ne le saura pas en avance. Et donc quand il va venir, le prophète alayhi salatu wasalam, il a également pensé à ça. Il ne s'était pas contenté de nous mettre en garde contre cet homme, la dangerosité de ses miracles, contre la description physique de cet homme, non, contre les dégâts qu'il va causer. Le prophète alayhi salatu wasalam a également dit aux musulmans, si jamais Dajjal arrive et que vous le rencontrez, que faire? Ou alors, que faire pour vous prémunir contre les fitnas de cet homme? Alors, très rapidement, en 5 ou 6 points, la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné pour être protégé contre le fitna de Dajjal, c'est renforcer taqwiyatul iman bil a'mal salihah, renforcer sa foi, sa conviction en Allah par le biais des bonnes actions. Vous savez que la foi, les ulama de l'Aqidah disent l'iman yazidu wa yanqus. La foi, soit elle augmente, soit elle diminue. Yazidu bil a'mal salihah, ça c'est pas le hadith, hein, ça c'est les textes de l'Aqidah. La foi augmente par les bonnes actions et elle diminue à cause des péchés. C'est-à-dire que la foi d'un homme, d'un musulman, ne reste jamais stable. Soit notre iman augmente, soit notre iman diminue. Dites-moi ce qui fait diminuer le iman. C'est les péchés. D'accord? Et at-takasul, hein, c'est l'insouciance, le fait de repousser à plus tard les bonnes actions ou de ne pas faire les bonnes actions de la meilleure des façons. Ou alors rétrograder dans les bonnes actions. Quelqu'un a l'habitude d'être premier saf tout le temps et peu à peu il commence à se fatiguer parce qu'on est le 10 juin, parce qu'il y a France-Angleterre et tout. Et puis donc il vient à la salat après, il fait la salat chez lui, même s'il a fait sa salat. Mais le fait qu'il recule dans les a'mal, sa foi diminue. C'est comme ça. On le paye cash. Diminuer les bonnes actions, votre iman diminue. Iman diminue, confiance en Allah diminue, conviction diminue, baraka diminue. Parce que quand on a confiance en Allah, Allah vous accorde la baraka. Qui nous rappelle le verset, fait ça? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. D'autres versets. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Qui nous rappelle le verset? فَهُوَ حَسْبُ, ça on a vu. Non, je vous dis de me rappeler parce que j'ai oublié. C'est pas un test, j'ai oublié. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. J'ai eu la fin. Allah Ta'ala lui accorde une ouverture, une nusra. Et Allah Ta'ala lui accorde sa subsistance de là où il n'imaginait même pas. Et celui qui a la conviction en Allah, Allah lui ouvre les portes de la bénédiction. Donc, vous voyez, parfois on parle de crise économique, de récession, de je sais pas quoi, d'austérité, d'accord? Mais la solution, c'est la confiance en Allah et les bonnes actions. C'est pour ça que le prophète, quand il y avait, on est en train de s'éparpiller, mais on s'éparpille dans le bon chemin. Hein. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, même qu'il y avait des difficultés, des azabs, des iqab, hein, la tempête, où il y avait tempête de sable, il y avait des azabs qui descendaient, le prophète salam demandait aux musulmans de faire istighfar. N'importe quelle solution, n'importe quel problème, dans la Ummah, demandez beaucoup istighfar. Parce que quand on demande istighfar, on demande à Allah pardon des péchés. Allah Ta'ala aura pitié de nous. Quand le iman augmente, les bonnes actions augmentent, la confiance en Allah augmente, on aura la baraka dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va accomplir. C'est la solution, c'est une des solutions pour tous les problèmes que les gens vivent. En plus, hein, l'autre solution, l'idéal, c'est de travailler de manière licite, comme Allah Ta'ala nous l'a demandé, et éviter tous les pièges, tous les investissements haram, il n'y a pas de fonds, avec, etc. Ouais. Donc pour revenir à notre ami, j'allais dire, pour revenir à Dajjal, donc la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, c'est renforcer son iman par le biais des bonnes actions. Et les ulama rahimahullah dit que, c'est une parole magnifique d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, on ne va pas dire en arabe parce qu'on est déjà à 22 minutes, à 26 minutes, et on veut terminer à 40, inshallah. Il dit que lorsqu'un cœur, ma'mouran bi taqwa, lorsque le cœur d'un mu'min est habité par la foi, alors les choses lui paraissent claires. Et ce cœur perçoit les bonnes choses, tout comme il va détecter les mauvaises choses. Il y a un doigt qui m'assoune, Allahumma arina al-haqqa, haqqa. وَرْزُقْنَا اتِّبَاعًا. Oh Allah, montre-nous la vérité comme étant vraie. Et donne-nous tawfiq, oh Allah, de mettre en pratique, d'aller vers la vérité. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا. Et montre-nous ce qui est faux comme étant vraiment faux et mauvais. Et donne-nous tawfiq, oh Allah, de nous éloigner du faux. Parce que malheureusement, quand quelqu'un est piégé par Shaitan, Shaitan lui fait voir le faux comme étant vrai. Et le vrai comme étant faux. Shaitan lui dit que oui, mais là où il est fatigué, où sont au travail, salat en jamaat, n'oublie pas masla ou l'apprendre. Ce qui est faraz, c'est les six piliers dans la salat, les arcanes, etc. Mais la salat en jamaat, en congrégation, n'est pas obligatoire. Donc fais chez toi, et n'oublie pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur des musulmans, c'est celui qui a le meilleur des comportements avec sa famille. Où ça laisse votre madame là? Où ça un namaz? Où madame la case tout seul? Où viennent en travail 7 heures? Namaz 7h45, là où ça va, où ça va rentrer 8h15. Madame fatiguée, oublie pas que Moïse l'a dit sur Mimbar l'autre fois, que la Ménika, il faut être proche de sa femme, de ses enfants. Tarbiya, éducation de tes enfants. Tu rends de la salade tes enfants d'hommes. Quel temps tu as donné? Subhanallah, Shaitan, le mufti. Il est plus fort que mufti Wikipédia, mufti Google, c'est mufti Shaitan. C'est-à-dire, Shaitan, il essaie d'induire en erreur par nos défauts, mais parfois également par le peu de science, on pourrait dire, les quelques qualités qu'on a là aussi. Shaitan, il va travailler tout. Shaitan, il brasse large, lui. Il soigne son attaque, sa défense, il soigne sa tactique de jeu. Tout, il connaît comment il faut faire pour piéger l'être humain. Ah, ça fait longtemps qu'il travaille, lui. Depuis le premier homme jusqu'à notre époque. Il a un CV extraordinaire, Shaitan. Et donc, un shaitan va nous induire en erreur, et la solution, comme on a dit, pour revenir, hein, pour ne pas trop perdre le fil que je viens de perdre, dit que donc quand un cœur est habité par la crainte d'Allah, par la taqwa, ce cœur voit le vrai comme étant haqq et il voit le faux comme étant batil. Alors que celui qui n'a pas de taqwa, qui n'a pas vraiment l'amour d'Allah dans son cœur, et qui n'a pas l'habitude de faire des bonnes actions, il va être piégé par Shaitan. Shaitan va lui faire voir les bonnes actions comme étant peu importantes, comme étant secondaires. Il n'a pas besoin de venir à Namaz tous les jours, vient du Mans. Mais du Mans vient bonheur. Au lieu de venir à, comme beaucoup de gens, il vient juste avant quand Bayan finit, il vient depuis midi. Mais le bouc, il ne vient pas aucun Namaz toute la semaine. Mais midi, il est là. Je ne parle pas des gens ici, hein, d'une manière générale. Et Shaitan essaie de faire en sorte, dit que bon, la 27e là, grande nuit. Grande nuit, qui ça dit 27e grande nuit? Reste tranquille, fais namaz à calme, ne fais pas namaz aussi. Le 27e défoulé. 27e ou bien là, 25, 30, 40 minutes avant la salat al-Isha, premier saf, écoute tasbih, écoute turma, écoute ta panoplie, là où en forme, là où les Avengers, et là, l'amener Avengers, ni masjid. Et donc, Shaitan va dire, voilà, après le 27e, on finit des foulahs, il est bon. Mais le lendemain 27e, le bouquin n'est pas fajr. Un problème là. Il est venu un bayan qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas sunna, qui n'est pas nafil, qui n'est rien du tout. Et le lendemain, il vient par salat al-fajr en jama'a qui est obligatoire, qui est pilier de son dîn. Et puis Shaitan va dire, inquiète plus là. Parce que dans 27, 15 et 3, 18, dans 18 jours, il y a quoi? Il y a 15 Shaban. Et 15 Shaban, là, il faut venir encore plus bonheur. Même assez. Et sa personne va venir avec 15 Shaban, il va écouter le bayan, il va faire doua. Et après, Shaitan dit maintenant, repos. Repos. Parce que Ramadan commence. Là, c'est comme mise au vert. Yani, mise au vert parce que Ramadan commence. Regardez les tentacules de Shaitan. C'est pas des tentacules, c'est des tentacules. Il vous ramène vers des choses. Il fait en sorte que il vous persuade d'être dans le droit chemin, que vous êtes dans le bon. Alors que Allah musta'an. Vous pensez que les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in adoraient Allah comme ça, la ilaha illallah. Quand les Tabi'in disaient que si les Sahaba nous voyaient, nous Tabi'in, ils auraient cru qu'on était des kuffars. Ils auraient eu des doutes, est-ce qu'eux ils ont la foi, oui ou non. Alors qu'on parle de qui là? On parle des Tabi'in. C'est-à-dire ceux qui ont rapporté les hadiths des Sahaba. Allahu Akbar. Quand on regarde une chaîne de narration, le bouc le plus haut, juste après Abu Huraira ou juste après Hudayfa, c'est qui? C'est un Tabi'in. Et Tabi'in, il tremble. Il dit, ces Sahaba, ils voyaient comment on vivait, notre mode de vie. Ils auraient eu des doutes si on a la foi ou on n'a pas la foi. Alors non, parlons plus de nous. A'oud billah de Shaitan Rajim. Et puis Shaitan, quand Ramadan commence, là aussi il est fort. C'est-à-dire qu'il faut aller doucement, doucement, parce qu'après, on sera fatigué. Hein, on a dit d'Abayan que les meilleurs, c'est la dernière décade. Alors 20 premiers jours, doucement. Attention, Narada. 10 derniers jours, là, mashallah, tu vas faire l'i'tikaf, tu vas y aller à fond. Et quand on entre le 20e, il dit, bah, ok, pas hadith, non. Le prophète m'a dit, cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires de la dernière décade. Alors le 20e, ne veut pas voir ce moussallah, 20e, ou dort, prend des forces. Parce que c'est 21e qu'il faudra être là. 21e, c'est impair. 22e, tranquille. Et 23e, faudra être là. Et puis Shaitan, il dit, si vraiment, après chacun a son qarin, mais ce bougla bien qarin comme ça, c'est un bougla, il fait pitié, parce que ce qarin là, c'est un mufti. Il va vous dire que les dalils prouvent que la nuit du destin, c'est plutôt vers le 25, 27e, kalam de différents aïma, donc voilà, etc., etc. Bref, pour nous faire comprendre que quand il n'y a pas la foi, quand il n'y a pas les bonnes actions, on ne voit pas la vérité, et malheureusement, on ne distingue plus le vrai du faux, on va prendre le faux comme vrai, et on va prendre le vrai comme faux. Alors que celui qui a la foi, Inch'Allah, il ne va pas tomber dans ses pièges. Parce que le Dajjal, c'est un piège. Dajjal, c'est un piège, tout comme Shaitan est un piège. Tout comme les sorciers de Pharaon étaient des pièges pour tester la foi des gens. Et quand Moussa alayhi salam a vu le miracle, en guillemets, le stikhraj des sorciers de Pharaon. Les gens qui étaient autour, lorsqu'ils ont vu les sorciers jeter leurs bâtons et leurs bâtons bouger et tout, pour eux, ils n'ont pas dit Allah Akbar, ils ont dit que ça c'est un miracle, ça prouve que c'est quelque chose d'incroyable. Mais vous croyez que Moussa al-Salam était impressionné? Nullement, du tout. Parce que c'est prophète d'Allah, et il sait que ça c'est batil. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme qui est là physiquement présent, il voit des choses devant ses yeux, mais il ne croit pas ce qu'il voit? Ajib ça. Il ne croit pas ce qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas avec ses yeux. Il regarde avec ses yeux, mais avant tout avec son cœur. Il regarde avec sa foi. Et quand quelqu'un a son iman qui anime ses cinq sens et son corps, et que c'est avec ses yeux qu'il voit, c'est avec son iman qu'il voit, subhanallah, cette personne ne voit pas, ne tombera pas dans le piège. Il y a un hadith, ça, si je ne me trompe pas, dit quand quelqu'un est proche d'Allah, hein, Allah il devient ses yeux par lesquels il voit, les oreilles par lesquelles il entend. Le hadith en ce sens, ça veut dire que quand on a la crainte d'Allah, la taqwa Allah, les a'mal qui viennent avec, et l'éloignement des péchés, Allah Ta'ala vous vient en aide, et Allah Ta'ala vous guide, vous êtes muwaffaq. Allah Ta'ala vous accepte et vous éloigne des péchés. L'histoire de tout le temps, on dit cet exemple, mais c'est pour moi-même en premier. Ghazwat Tabouk, hein, le Sahaba, les trois Sahaba qui n'avaient pas participé à la bataille. Hein, et puis ils ont vu qu'il y avait plein d'hypocrites qui ont menti. Le Prophète a dit que oui, nous on n'est pas venus pour telle raison. Le Prophète les a fait marre, les a pardonné. Et puis il y a un de ces Sahaba, il allait commettre cette erreur. Les gens de sa tribu lui disent que dis au Prophète d'Allah que tu avais tel problème, tu n'as pas pu venir. Et ça va s'arrêter à là. Ne t'inquiète pas, tu es quelqu'un qui était présent à la bataille de Badr. Hein, le prophète va te respecter. Et le hadith dit que, le sahaba dit que, Ka'b, si je ne me trompe pas, Ka'b ibn Malik qui s'appelait, radiallahu anhu, dit que il s'en est fallu de peu pour que je tombe de ce piège. Mais Allah m'en a protégé, m'en a préservé. Le commentaire, les muhaddithin disent, lorsqu'Allah aime une personne, lorsque quelqu'un a la crainte d'Allah dans son cœur, lorsque quelqu'un accomplit les bonnes actions et reste éloigné des péchés, Allah Ta'ala protège cette personne. De quelle manière? Que quand la personne va tomber dans l'erreur, Allah, c'est comme si qu'Allah le retient. Allah l'éloigne du batil. Allah fait en sorte que cette personne devient mahfouz, devient protégée. Il ne tombe pas dans les pièges de shaitan et il ne subit pas les fitnas comme les gens ordinaires subissent les fitnas et il reste toujours éloigné des sources du mal. Vous voyez que le prophète était petit. Histoire très connue qu'on raconte à Sira. Ses amis l'avaient invité vers une fête où il y avait musique, où il y avait les choses de Jahiliya, où les enfants allaient voler la nourriture. Les amis disaient au professeur, mais t'es encore un enfant, allons, viens avec nous, etc. Le professeur ne voulait pas aller, ils l'ont amené de force. Et Allah Ta'ala va protéger le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il est encore un enfant. De quelle manière? Allah Ta'ala fait en sorte que le professeur s'évanouit. Ça, les Mohammedis disent que ça, c'est comme ça qu'Allah protège. Ça, c'était le prophète d'Allah, bien sûr. Mais d'une manière générale, quand Allah aime quelqu'un, il le protège des péchés. Il le protège des endroits où on fait des péchés. Et il le protège également des sources de troubles, des sources de fitna. Le prince s'est évanoui et son corps, Mubarak, était un enfant, est devenu tellement lourd que ses amis ne pouvaient pas le transporter pour l'amener jusqu'à là-bas. Ça, c'est quand Allah protège quelqu'un. Bon, ça, c'est un niveau extrême, inchallah, pour le Nabiullah. Mais d'une manière générale, quand Allah protège quelqu'un, Allah fait en sorte qu'il ne se laisse pas piéger par Shaitan. Quand quelque chose est faux, il le voit de loin. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans et il sent est loin. Donc, la première chose qui va sauver un homme, c'est sa crainte d'Allah, sa foi, ses bonnes actions. Et regardez, je pense qu'on va s'arrêter à là parce que c'était à la base le thème du jour. Il y a 4 et 5, 9. Il y a 9 points cités, mais on ne pourra pas le faire. On va le bâcler. C'est le premier point, c'est suffisant. Comprenez que c'est la foi, bi'idhnillah, qui va protéger l'homme. Et ce n'est pas le fait d'habiter dans un lieu saint. On a vu qu'à Makkah, à Madina, Dajjal ne peut pas entrer. La question qu'on peut se poser, Abdurrahman a compris, est-ce que quelqu'un qui habite à Makkah et à Madina, ou à Madina, est-ce que cette personne a la garantie d'être protégée de Dajjal? Salih. Quelqu'un qui habite à Makkah et à Madina à l'époque de Dajjal, est-ce qu'il est sûr qu'il ne sera pas tenté par Dajjal? Oui, non. On ne peut pas dire ça. Car le prophète a dit que avant la venue de Dajjal, il y aura tremblement de terre. Et les hypocrites vont avoir peur. Ils vont quitter Madina. Et quand ils vont quitter Madina, il y aura beaucoup de femmes aussi. Quand ils vont quitter Madina, ils vont trouver qui? À la sortie, ils vont trouver Dajjal. Et ces hypocrites-là, nasallallahu alayhi wa sallam, vont suivre Dajjal. Il y a que malgré le fait qu'ils étaient à Makkatul Mukarrama, à Madina Nabawiya, ils ne sont pas protégés. Qu'est-ce qui protège un homme? Bi'idhnillah, c'est sa crainte d'Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah dans le taqwa d'Allah dans son cœur. Et pas le fait d'être dans un endroit béni. Et il y a une parole, subhanallah, j'avais jamais lu ça, Allah Akbar, parole magnifique, on va citer ça en conclusion. On avait demandé à... Non, c'était une riwayat dans le Muwatta, si je ne me trompe pas, de Yahya ibn Sa'id, dit que Abu Darda, radiallahu anhu, avait écrit à Salman al-Farisi. C'est un sahaba qui s'adresse à un autre sahaba. Bien sûr, on est après le décès du prophète sallam. Il dit que Anna halumma ila al-ard al-muqaddas. Il dit, oh Salman, viens habiter en terre sainte. Viens habiter avec nous en terre sainte. C'est-à-dire au Sham, on parle de Bayt al-Muqaddis, au Sham, d'accord. Et Salman a répondu, ça c'est une citation magnifique. Inna al-arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu. Sache, ô Abu Darda, qu'une terre sainte ne protège pas un homme. C'est pas une terre sainte qui fera d'un homme un homme pieux, un homme saint, mais c'est ses actions et sa foi. C'est les actions et la foi d'une personne qui va construire sa force spirituelle, qui va le rapprocher d'Allah, et non pas le fait d'être dans tel endroit. On verra par la suite que certes, parmi les mises en garde que ça nous a donné, et parmi les solutions, c'est d'habiter à Makkah, Madina, mais ce n'est pas tout. À mon avis, il y a des gens qui vont quitter ces lieux saints pour aller rejoindre Dajjal. Donc, si on peut se suffire de ça aujourd'hui, c'est avoir une foi inébranlable en Allah Azza wa Jal, faire des bonnes actions qui vont renforcer la foi pour qu'on voit le batil comme batil, on voit le haq comme haq, et ça c'est dès maintenant. C'est dès maintenant pour que la personne ne tombe pas dans les pieds de Shaitan. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Délaisse ce qui te paraît douteux pour ce qui ne paraît pas douteux, pour ce qui est plus sûr. Ça, c'est la taqwa. Quand on voit quelque chose, on dit que c'est possible que c'est illicite, c'est possible que c'est illicite, il y a un pourcentage de doute, celui qui a la crainte d'Allah de son cœur, il s'en éloigne. Vous savez, les sahaba, les tabi'in, hein, eux, ils faisaient les actions qui sont obligatoires, ceux qui étaient sunna, mustahab. Et ils s'éloignaient de ce qui était haram, de ce qui était makruh, déconseillé. Ils s'éloignaient également de ce qui était douteux. C'est-à-dire qu'ils prenaient toutes leurs précautions pour faire plaisir au maximum, pour rester au maximum éloigné de ce qui peut encourir la colère d'Allah, et ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour se rapprocher d'Allah, pour faire plaisir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc développer la foi, les bonnes actions, et madarijul iman, donc c'est les différentes étapes de la foi, hein, développer les différentes étapes de la foi, et on pourrait ajouter à ça un deuxième asbab que le prophète nous enseigne, c'est al-ilm, la science religieuse d'une manière générale, et principalement concernant les signes de Ad-Dajjal. Et un exemple pour conclure, voyez que foi plus bonne action sans science religieuse, ça n'amène malheureusement pas à d'excellents résultats. Une personne peut avoir la foi, faire des bonnes actions, mais la personne n'a pas d'ilm, la personne n'a pas appris, hein, elle fait des actions comme ça par héritage ou par autre chose. Quand il y a une source de trouble, la personne peut tomber de ce fitna. Vous voyez les personnes qui ont assassiné Uthman ibn Affan radiallahu anhu, c'est aussi un exemple qu'on cite tout le temps. Ces personnes là les sahaba, lorsqu'ils les ont accueillis, hein, c'est des gens qui habitaient en dehors de la péninsule arabe, lorsque les sahaba les ont accueillis, déjà c'est un grand nombre. C'est-à-dire, ils ont vu des gens venir avec une maîtrise du Coran que certains sahaba eux-mêmes n'avaient point. C'était, on les surnommait les qurra, les grands qari. Qurra, c'est le pluriel de qari. Quand nous, qu'un qari arrive, un qari, il est arrivé, qari sur l'Égypte, Allahu Akbar, tout le monde vient, il crie Allahu Akbar, et tout. Après demain, viens, papa Djar non plus. Et donc, ils ont dit que quand ces hommes-là, ils ont assassiné Uthman, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas mené l'enquête pour savoir ce que les hypocrites, tout ça, toutes les fitnas qu'il y a eu, toute la cassure qu'il y a eu également entre sunnites et chiites, c'est le travail de shaitan bien sûr, aidé par les shayatin al-ins, les êtres humains parmi les shaitans, plutôt les shaitans parmi les êtres humains, ce sont les hypocrites. On ne va pas dire c'était qui à la base, hein, faisaient semblant d'être musulmans pour semer le trouble. Et donc c'était eux qui ont fait plein de choses, qui ont fait en sorte que les gens avaient une mauvaise pensée de Uthman ibn Affan, et ensuite shaitan a insufflé dans le cœur de ces juhal. Ils étaient qurra, ils étaient musulmans bien sûr, ils avaient la science religieuse, ils avaient la science du Coran, la lecture basse, ça se limitait à une belle voix. Mais ils ne connaissaient pas les principes du dîn, le fait que le sang d'un musulman est haram, le respect qu'un musulman doit avoir pour son amir, pour amir al-mu'minin. Et là, par manque de connaissances religieuses, ils ont décidé d'assassiner Uthman ibn Affan sans comprendre qu'ils sont en train de s'attirer la colère d'Allah, parce que c'est quelqu'un qui ose remettre en question l'autorité du amir, le amir qui respecte les ordres d'Allah, le amir qui a été nommé de manière légitime bien sûr. Cette personne-là, elle s'attire à la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, man ahana sultan Allahi fil ard, ahanahu Allah. Celui qui déshonore, hein, le sultan d'Allah, l'émir, le amir, Allah ta'ala va également le déshonorer. Donc, par manque de connaissances, ils ont fait ça. Les sahaba, ils ont dit qu'on n'aurait jamais pensé que des gens qui lisent le Coran comme ça auraient pu faire quelque chose d'aussi horrible. Tuer Uthman ibn Affan, qui était sahaba, calife, troisième calife, et avant tout le gendre. Deux fois, le gendre du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est quand quelqu'un n'a pas le ilm, la personne peut être induit en erreur par Shaitan. D'où l'importance, mes chers frères, d'apprendre la science religieuse. Ça c'est important. Un musulman ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il vient, il fait namaz, il attend Ramadan, il lit son Coran, il fait son zikr le matin, il fait son ishraq. Mashallah, ce sont des qualités ça, hein, que peut-être moi-même je n'ai pas et j'aimerais les développer. Celui qui le fait, alhamdoulilah, il a déjà atteint un degré, mais ce n'est pas suffisant. Un musulman ne peut pas vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, il ne connaît pas plus de choses que ça. Il ne connaît pas plus, c'est-à-dire quelqu'un qui a 70 ans, qui n'a jamais lu le tafsir de alhamdoulilah, rabbil alamin, al-fatiha, aïb. Il y a un problème. Ce Coran qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé, c'est pour que l'être humain le lise, le récite dans la salat, etc. Mais également, afala yatadabbarun al-Qur'an, méditer sur le sens du Qur'an. Ça, c'est un ordre de la part d'Allah. Et il y a même une reproche pour celui qui ne le fait pas. Est-ce que nous ne sommes pas tous Afala? Afala, c'est pourquoi ne font-ils pas? Pourquoi donc? Afala yatadabbaroun al-Qur'an, reproche à un mu'min qui ne médite pas sur le sens des versets d'Allah Azza wa Jal. Et tadabbur bil-Qur'an, c'est pas écouter un homme qui lit bien. C'est pas écouter Soudais, Shuraim, Mu'aqili ou Ifasi ou alors les grands Qur'as égyptiens qui viennent. C'est pas tadabbur ça. Ça c'est istima'. Il y a des récompenses pour ça. Écouter le Qur'an, il y a des récompenses. Mais on a fait une étape. Mais tadabbur, on ne l'a pas fait. Et c'est ça le gros problème. C'est ce qui fait que nous restons vraiment éloignés de l'objectif final. On ne se rapproche pas plus d'Allah qu'il y a 15 ans, 20 ans. Parce qu'on se rapprochera d'Allah à partir du moment où on va tenir à deux mains le hablullah, la corde d'Allah en guillemets. C'est-à-dire la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ça m'a dit que ces deux choses qu'il a laissées, l'antadullu abada. Si quelqu'un reste ferme au Coran et à la Sunna, au texte prophétique, cette personne ne sera jamais égarée. Même dans les pires périodes de la Ummah, dans les pires périodes de troubles. Mais restez accroché, ça c'est le Coran, ça c'est la Sunna. Taraktu fikum ma in tamassaktum bi lantadullu abada, kitabullahi wa sunnati. Ça c'est le Coran, ça c'est la Sunna. Ça veut dire quoi rester accroché? C'est tenir serré contre nous? C'est que quand je prends le Coran, j'embrasse, je mets sur le front, sur les joues, droite, gauche, tout ça, il passe partout. J'ai respecté le Coran là? Non, j'ai rien fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des bid'ahs au lieu de faire de bonnes choses. D'accord? At-tamassuk, rester accroché au Coran, c'est quoi? C'est aimer, respecter, le lire correctement, ne pas déformer la prononciation, etc. Il y a des choses qu'on sait faire, mais quand tu lis, tu vois, ya ayyuhal ladina amanu. Comme ça, on m'a dit que quand un musulman voit Ya Ayyuhal Ladina Amanu, en ce sens, qu'il ouvre grand ses oreilles. Parce que ça, c'est Nida ur-Rahman. Ça, c'est un appel d'Allah. Allah fait Alan. Oh, vous qui avez la foi. Ça concerne qui? Ça concerne les kuffars, les mushrikins? Ça concerne les. Non, c'est ceux qui ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, dans chaque Ya Ayyuhal Ladina Amanu, je suis interpellé. Chaque Ya Ayyuhal Ladina Amanu, je dois écouter et je dis oui, oh Allah. Et voir qu'est-ce qu'Allah me dit. Ajib, ça, quelqu'un, enfin, c'est pas des reproches, hein, mais on essaie de se remettre en question. Ça, c'est important. Qu'un musulman, un mordi, se dise que j'ai besoin de me rapprocher d'Allah. Comment faire? Je ne me suffis pas de ma foi. Parce qu'on a dit que si on reste au même niveau, la foi, elle va diminuer, elle va se tasser. Et on verra la prochaine fois, pour conclure, c'est la quatrième conclusion, la prochaine fois, on va voir qu'une des méthodes que le prophète nous a enseignées, c'est de lire sur les Kahf. Celui qui, dans certains hadiths, dit que celui qui mémorise les 10 premiers versets, dans d'autres versions, celui qui mémorise les 10 derniers versets de Sourate Kahf sera protégé contre Ad-Dajjal. Et pourquoi ça? Et pourquoi spécialement Sourate Kahf? Pourquoi pas Sourate Yassin? Pourquoi At-Tabaraka Alladhi wal Waqi'a ou autre chose? Les ulama disent que dans le Sourate Al-Kahf, il y a tellement de récits extraordinaires qui dépassent l'entendement humain que si une personne maîtrise la Sourate Kahf, il sait qu'est-ce qu'Allah a révélé. Toutes ces histoires extraordinaires, toutes ces histoires trompent œil un petit peu, et qu'Allah a montré la réalité, la vérité par la suite, alors la personne ne tombera pas dans les pièges de Shaitan, de Dajjal. Parce qu'il aura vu des choses aussi incroyables, des récits exceptionnels, et il a vu la réalité, la haqiqa, la hikma, la sagesse qu'il y a derrière ces versets. Donc, c'est comme si qu'il est vacciné. Mais la question qu'on se pose, celui qui lit sur les Kahf depuis 30 ans, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme vertu, pas comme vertu, qu'est-ce qu'il y a comme récit dedans. Mais est-ce que l'objectif est atteint? Non! Parce que l'objectif, c'est que la personne lise et comprenne pour qu'il puisse analyser les histoires de Sourate Kahf. Il y a un condensé d'histoires qu'on ne retrouvera pas dans aucun surat. Dans peu de pages, autant d'histoires exceptionnelles et de leçons à retenir qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire que le musulman, l'objectif, c'est qu'il lise, qu'il comprenne ces histoires, qu'il en tienne les leçons, et avec ça, quand il voit l'émirat d'Adjal, il va comprendre que non, par rapport au Sourate Kahf, il y a telle chose, il va pas tomber dans des erreurs, des pièges qui sont similaires. Mais maintenant, si je lis juste, alhamdulillah, il a dit, anjal al-abdi l'iktab, wa nabaji al-wa'iwaja, jusqu'à la fin, sans me poser des questions, quels sont les récits dedans, le Kahf a été lu, mais l'objectif n'est pas atteint. Le maqsad, c'est quoi? Méditer sur ces versets, pour en tirer les leçons, pour être protégé contre des pièges similaires de Ad-Dajjal. Donc, cette conclusion, c'était pour revenir vers le fait d'avoir la science religieuse, d'apprendre les hadiths, les versets courants concernant Dajjal, les hadiths plutôt concernant Dajjal, et également d'une manière générale apprendre la science religieuse. Ça renforce la foi d'une personne. Man yuridillahu bi khayran yufaqqihu fid din. Quand Allah veut du bien pour une personne, Allah lui accorde la science. Il n'y a pas meilleure chose pour un être humain que d'apprendre la science religieuse. On avait demandé à certains sahaba si tu restais une nuit avant de mourir. Et le sahaba, d'autres personnes disent que quelle action il aurait fait. Et la réponse c'est d'apprendre la science religieuse. Et il y a d'autres sahaba qui ont dit qu'il aurait, je sais pas, été au khidma de sa famille, j'ai pu souvenir. Mais la science religieuse, ça reste une des choses les plus importantes en tant que. Ça nous donne des thawab, des hasanad, mais ça nous rapproche également d'Allah Azza wa Jal. Ça nous fait voir la vérité et ça nous fait comprendre, réaliser quel est le batil. Et avec ça, on sera, inshallah, également protégé contre Al-Dajjal. Donc la prochaine fois, normalement, il devait rester deux séances, c'était là et la semaine prochaine. Mais apparemment, on n'a pas complété. Donc la prochaine fois, inshallah, dans deux mardis, on va compléter ce chapitre concernant les moyens pour se protéger contre Al-Dajjal et ensuite terminer par. La mort de Dajjal, la mort, j'allais plutôt dire la mise à mort de Dajjal par le biais de Hazrat Isa alayhi salam, et ça nous permettra ensuite d'enchaîner vers le troisième grand signe de Qiyama qui est le retour de Jésus-Christ, le retour de Isa alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous accepte notre offre de compenser quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos soeurs. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin.